Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr. Au sommaire aujourd'hui, la première émission d'une série de deux entièrement consacrée à un genre que nous affectionnons tout particulièrement, le polar. Avec au programme, trois films asiatiques édités par Spectrum Film, Wrath of Silence de Xin Yukun, film chinois de 2017, Birdshot de Michael Red, film philippin de 2016, et surtout le classique Cops and Robbers d'Alex Cheung, film hongkongais de 1979. On enchaîne avec un film de braquage qui a inspiré Reservoir Dogs, enfin un des films qui a inspiré Reservoir Dogs à Cutie, le quatrième homme de Phil Carlson, autrement appelé Kansas City Confidential. C'est un film de 1952, ça c'est sorti chez Rimini. On va aller chez Elephant Film ensuite pour parler d'une série télévisée des années 90, une série hommage au film noir produite par Sidney Pollack qui s'appelle Fallen Angels. Nous aurons aussi quelques classiques au programme de cette émission, puisqu'il y aura le film d'Otto Preminger, Autopsie d'un meurtre, qui est disponible chez Carlotta, un film de 59, et puis un film de 1944 de Robert Siodmak qui s'appelle Le Suspect et qui est sorti chez ESC Éditions. Pour causer polar, je suis accompagné de mon fidèle acolyte Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site culturopoint.com. Salut Thomas.
Salut GG, bien évidemment, salut à toutes et à tous.
On a décidé en fait de se consacrer au polar, mais un peu sous toutes ses formes. On se cale un peu sur l'actu, mais en même temps ça nous permet de parler du polar aussi, comment le genre est utilisé, comment un peu partout dans le monde, on signe des polars et ils sont différents, voilà. Et il y a une grande tradition du polar dans les pays asiatiques, ça c'est une réalité. Par contre, il y a assez peu, on va dire, en dehors des grands classiques connus hein, qu'on a déjà, que HK Vidéo a pas mal défriché le terrain il y a quelques années, mais il y a assez peu quand même de films de cette époque qui sont disponibles, voire quasiment pas. Et je parle en particulier de la grande époque des années 60, fin des années 70, début des années 80, qu'on a appelé la nouvelle vague hongkongaise, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la nouvelle vague française. Hein. C'était beaucoup des cinéastes qui venaient de la télé, qui avaient appris à filmer d'une certaine manière à la télé. La télé qui était un peu un refuge à l'époque parce qu'on pouvait parler de choses, on pouvait même parler de choses comme la politique de l'enfant unique, de la Chine populaire et tout, qui étaient des trucs complètement tabous en fait au cinéma, on n'en parlait pas du tout. Et donc ce sont des... Il y a Anhui, il y a Choi Ark, tous ces cinéastes-là ont fait leurs armes à la télévision hongkongaise. Et il y a plein de choses qui ont été produites, paraît-il plein de choses assez démentes, vraiment excellentes, très intéressante, et visiblement aucun éditeur se penche sur le sujet. Et donc, je tenais à mettre un petit coup de projecteur sur Spectrum Film, qui est une petite maison d'édition, hein, mais qui vraiment fait un très beau travail, puisqu'ils viennent de sortir alors deux polars thrillers assez récents, hein, dont on va parler après, qui sont Birdshot de Michael Reed, enfin de Michael Red, pardon, excusez-moi, et Wrath of Silence, là qui est carrément chinois, qui est un film chinois de Xin Yukun. Ils viennent de sortir ces deux films-là, puis ils ont sorti aussi un film, qui est un film que je voulais voir depuis très longtemps, un film d'Alex Cheung, qui s'appelle Cops and Robbers. Ça, c'est un vrai événement. C'est un film de 79. Et c'est un des premiers, certains disent que c'est le premier, mais c'est un des premiers polars urbains produits à Hong Kong.
唉，我啊真系俾你激死啊！十足十系似你老豆咁，样样都死顶。
新鲜热辣嘅猪肠粉啊！
搞掂啦，
掂啦，
夹住。
C'est un film vraiment très très particulier. Hein. Donc ça s'appelle Cops and Robbers. Donc, hein, le titre est simple. Hein, voilà, les flics et les voleurs, quoi. Voilà, les gendarmes et les voleurs. Si on veut se référer à une expression française. Et ça va donner un film, le film d'Alex Cheng, un film très particulier. Un film qui peut rappeler effectivement tous ces polars urbains tournés sans autorisation dans les rues dans les années 70 aux États-Unis. Ça peut rappeler aussi de Get Carter de Michael Jeez, ça peut aussi rappeler toutes ces séries B de Larry Cohen, le paranoir de Harlem et tout, qui était tourné sans autorisation dans les rues new-yorkaises et tout, qui ont vraiment de la gueule, quoi. En fait, quand on voit ces films, on se dit putain, j'y suis, quoi. C'est le vrai New York, c'est le vrai. Ben là, c'est le vrai Hong Kong. Voilà, on est dans le vrai Hong Kong. On est vraiment. Voilà, il y a cette photo qui est très particulière. Il y a. C'est un côté presque naturaliste, alors que, en fait, c'est très travaillé. Hein, c'est une mise en scène très travaillée. Et surtout, le film est très bien découpé. Le film peut faire un long plan fixe. Voilà, quand c'est pas nécessaire de mettre du rythme. Mais quand il y a du rythme, des poursuites, des coups de flingue qui s'échangent, à ce moment-là, le film est très rythmé, le découpage très, très bien fait. Il y a du bon boulot, c'est énergique, c'est vraiment un film assez passionnant. Alors, l'histoire est simple, hein, ça n'a pas d'autre ambition que d'être une série B, un bon petit polar, sauf qu'à l'époque, visiblement, ça n'avait jamais été fait ou quasiment jamais fait. On a au début un petit garçon qui part jouer avec ses potes aux gendarmes et aux voleurs. Il y a un intermède musical avec une chanson, parce que là c'est un des rares défauts du film, mais il y a parfois des chansons, mais on comprend mieux en regardant les bonus, parce que le producteur du film est aussi un type qui fait de la chanson, enfin bon voilà, qui apparaît d'ailleurs dans le film, qui joue dans le film, qui joue dans un club, qui fait une chanson à la gloire des flics, c'est assez rigolo. Et par contre, là, ce qu'on voit, c'est que ce gamin, il va jouer aux gendarmes et aux voleurs, c'est un peu un petit voyou, et puis il rentre chez lui, il se fait un peu engueuler par sa grand-mère, et enfin c'est un fils de flic. C'est un fils de flic et c'est le fils d'un flic assez réputé, voilà, qui est un flic un peu dur à cuire et qui élève seul cet enfant, voilà, parce que ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est qu'on découvre les flics, mais aussi leur vie sentimentale, c'est-à-dire on a un autre flic par exemple qui a beaucoup de mal à séduire sa femme, à la garder parce qu'elle veut pas rester avec lui parce que elle a peur qu'il se fasse tuer, elle veut qu'il change de métier, tout ça, enfin bon, il y a toutes ces choses là qui sont quand même pour l'époque assez modernes. En fin de compte, parce que voir la vie intime des flics, c'est pas quelque chose qu'on voyait énormément au cinéma. Voilà. Et en fait, donc, il est fils d'un flic, est une sorte de flic d'élite, qui est un peu une sorte de Popeye Doyle, quoi. Voilà, hongkongais. Et au début, ben voilà, ils sont infiltrés, ils sont dans la rue. C'est génial. Hein, les premières minutes sont super là quand ils sont dans la rue, qui vendent. Il y en a un qui vend des nouilles, il y a la sauvette qui vend de la street food comme on dit aujourd'hui. Il y en a d'autres qui font les travaux publics, tout ça. Mais en fait, c'est tous des flics évidemment. Alors toi, tu les repères. On ne sait pas comment les les mecs qui viennent braquer les repèrent pas, mais nous on les repère en tout cas. Et il y a des types qui viennent donc attaquer une sorte de fourgon de la Brinks, hein, voilà, transporteur de fonds qui se font attaquer. Et eux interviennent et ça rigole pas. Puis parallèlement, en même temps, il y a un type étrange qui fait partie d'une bande de voyous, qui est un type qui a un strabisme. On comprend vite que ce type a un strabisme, donc c'est ça qui lui a coûté sa place chez les flics. On le voit lors d'un flashback. Celui-là aurait voulu être flic. Et comme quoi la frontière est ténue. Il est fasciné par les armes. Il est ultra violent. Et il a une haine des flics, donc il va commencer à flinguer du flic, quoi. Voilà. Alors le film commence. Enfin, dans les premières minutes du film, il va tuer des flics et récupérer très sauvagement et récupérer leurs armes. Et du coup, il va avoir des armes. Voilà, et il va pouvoir commettre des méfaits. Et avec cette bande, il décide d'aller braquer une banque. Et ça donne d'ailleurs un moment très intéressant dans le film, puisqu'ils mettent des masques kabuki, lui et sa bande. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit aussi ce type d'ailleurs cruel avec sa mère, Les flics, comme les méchants, on les voit dans leur vie au quotidien, en fait. Et ils vont braquer cette banque, et ça donne une scène assez étrange avec ces masques kabuki où ils vont braquer la banque. Et kabuki, le théâtre donc traditionnel, voilà. Et y a un moment, d'ailleurs, c'est des masques de fantômes. Et il y a un moment qui est très drôle, quand ils veulent rentrer dans la banque, enfin dans une pièce de la banque, il y a le directeur de la banque avec une de ses guichetières, et la guichetière est terrorisée parce qu'elle croit que c'est des fantômes. Et son patron lui dit c'est un braquage. Elle dit j'ai eu peur, j'ai cru voir des fantômes. Et c'est assez drôle en fait, mais c'est pas du tout fait sur le ton de l'humour. Hein. Dans le film, ça dure 2 secondes cette scène, mais c'est assez intéressant. Et bon, il y a le braquage et il y a un type qui fait la sécurité qui se fait tuer. Et donc le fameux flic, le héros avec sa bande de flics. Alors il y a tous les flics habituels, il y a le jeune premier qui sort de l'école, qui n'est pas trop familiarisé avec la violence et les armes, il ne sait pas s'il veut rester flic, il y a le flic plus expérimenté, il y a le flic déconneur, et en fait, ils vont traquer cette bande, et ça ne va pas bien se finir, puisque le type complètement fou, là, va finir par enlever le fils le fils du flic qui est un peu plus le héros du film. Voilà. Donc, et le portrait de psychopathe est assez saisissant. Il y a des scènes assez marquantes dans le film. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que le film, malgré le côté gentil contre les méchants, n'est pas manichéen. C'est-à-dire qu'on voit par exemple, le flic qui est le héros, il forme le petit jeune à faire des interrogatoires. Et le petit jeune, il fait un interrogatoire comme nous on le ferait, quoi. Il pose des questions au type en face de lui. Sauf que là, le flic arrive, le héros lui fait « Non, c'est pas comme ça qu'on fait !» Et alors il lui fait un interrogatoire façon annuaire, le point commun entre toutes les gendarmeries du monde, voilà. C'est-à-dire un interrogatoire plus musclé, un peu plus vicelard, on va dire. Par moments aussi, ces flics... ils fréquentent des filles, on sait pas trop, c'est pas des filles entre guillemets de mauvaise vie, donc ils sont pas non plus montrés que sous leur bon jour. Ça c'est assez intéressant. Et puis le film est surtout une série B sèche, nerveuse, un vrai polar urbain comme on les aime. Je vous dis, hormis ces 2-3 intermèdes musicaux là qu'on va mais qui passent bien dans le film parce qu'on sait qu'on va y réchapper. Et puis il y a un portrait de psychopathe qui est vraiment excellent, quoi, avec l'acteur qui est vraiment flippant, qui est très moche avec son strabisme là, et qui est vraiment effrayant parce qu'on est capable de faire à peu près tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins. Et il n'est animé, alors ça c'est évidemment c'est le côté caricatural, il n'est animé que par la haine. Voilà, c'est-à-dire qu'on lui trouve pas trop de on lui trouve pas trop de circonstances atténuantes à ce garçon. Bon, il a été refusé au concours d'entrée de chez les flics, mais c'est pas le seul, quoi. Voilà. Mais lui, il est animé par la haine, et ça fait du coup un personnage de tueur assez intéressant. Et bon, le film est vraiment bien, je vous le conseille. C'est un petit classique du genre, et il paraît que Alex Cheung a signé l'année suivante ou 2 ans après, parce que c'est une période très productive, hein, un autre polar encore mieux que celui-là. Donc je fais un appel aux éditeurs un peu plus, voilà, qui auraient le courage de le sortir. Peut-être Spectroc Film, mais en espérant qu'ils sortent d'autres films de cet acabit. Il faut les soutenir, donc il faut acheter leurs Blu-ray, DVD, c'est des beaux combos, en plus plein de bonus. Donc il faut ne pas hésiter.
一个走，一个追，冰拆方始早分配。今天的你，像那当初的我，他朝对错，变幻多，难拆比我。 不会少，不会多，恩怨方始早分妥。他朝的你，或似今天的我，当初远景难分清楚，不知不觉。 就有因果，难道冇对错？一生福与祸，人人必经过。
Écoutez Culture Prune. Deux autres films qu'ils ont sortis dans la même salle, voilà. Il y a Birdshot, qui est un film philippin. Voilà, c'est très, assez particulier. Alors, Michael Red, qui donc signe ce film. On a une jeune fille, une jeune femme même, qui vit seule avec son père fermier. Et qui lui apprend un peu pour se débrouiller, la chasse, tout ça, bon, voilà. Et le problème, c'est qu'elle tue un oiseau, qu'un aigle philippin, qui est une espèce en voie de disparition, qui est une espèce protégée. Et il y a des flics qui étaient chargés d'enquêter sur la disparition de tous les passagers d'un bus, un bus retrouvé sans ses passagers. Et puis tout à coup, on leur dit « Non, vous enquêtez plus là-dessus, vous enquêtez sur l'aigle philippin, voilà, qui s'est fait tuer là. » Et du coup, tout ça va les mener, bien sûr, jusqu'à Maya et son père. Et ça donne vraiment un film assez étrange. C'est un thriller qui est presque fantastique et qui, en même temps, a un petit côté écologique. On nous montre aussi, on parle un peu de la corruption des autorités. On parle du triste sort réservé aux paysans. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est plus à la limite encore, c'est un personnage de flic qui s'appelle Domingo, qui lui vit vraiment une descente aux enfers. Et c'est assez intéressant, c'est un film un peu poétique, un peu étrange, mais c'est surtout un film avec une très forte tension. On est vraiment dans le thriller très maîtrisé, des très beaux cadres, et on vous le conseille. C'est une sorte de thriller contemplatif, très angoissant. Autre film sorti, Wrath of Silence, dans la même dans la série de trois films qui viennent de sortir, la Spectrum Film. Là, c'est un film chinois de 2017. Alors évidemment, on connaît quelques films chinois qui arrivent jusqu'à nos écrans, mais il y en a quand même assez peu. Et là, on a ce film chinois qui raconte l'histoire d'un mineur muet qui s'appelle Zhang Baomin. C'est un film de Xin Yukun. Et Zhang Baomin, il a quand même, il faut pas le faire chier, quoi. Voilà, c'est un type quand il s'énerve, il s'énerve. Voilà, on veut dire qu'il a le sang chaud, quoi. Voilà. Et là, il travaille loin de chez lui. Et il apprend que son fils a disparu, donc il rentre dans son village en Mongolie. Et voilà, il retrouve la même situation avec des difficultés dans les mines, des travailleurs en souffrance. Et voilà, il décide aussi de retrouver son fils, bien évidemment. Et évidemment, il va se retrouver confronté, ben, on a compris, au potentat local, voilà, la personne de la bourgeoisie, en l'occurrence, hein, le riche Chang Wanyan, qui a la mine. Voilà, et ben notre mineur au sang chaud, évidemment, il va déchaîner sa violence. Et moi, j'aime quand la violence se déchaîne dans les films. Mais c'est un film intéressant, c'est-à-dire que c'est un film hyper noir. On est à la fois dans le film noir, dans le thriller, dans le film de vengeance. Mais c'est pas le film de vengeance du type plaisir coupable. C'est-à-dire, on n'est pas dans le Death Wish de Eli Roth, on n'est pas dans le Taken de Morel. Là, on est dans quelque chose de plus fort. Un film très nihiliste, hein, la fin est terrible. Mais surtout, c'est un film, c'est ça qui est intéressant, c'est un film chinois sur les inégalités sociales en Chine. Parce qu'en fin de compte, ce pauvre mineur, qui est un prolo, quoi, voilà, il a le droit de rien faire, en fait, quoi. Il est victime de toutes les injustices. Et de l'autre côté, il y a le bourgeois, quoi, le chef d'entreprise, qui, lui, peut tout se permettre. Voilà. Et cet affrontement a un côté aussi western. Donc, il y a vraiment tout dans ce film. Et c'est vraiment, pour moi, une très belle découverte. Donc, je remercie, une fois de plus, Spectrum Film. Alors toujours, on est toujours dans notre culture prohibée spéciale polar sous toutes ses formes. Hein. Et là, on va parler d'un film qui était un film de procès qui est sorti chez Carlotta, en fait, hein, qui s'appelle Autopsie d'un meurtre, d'Otto Preminger, qui est un film de procès, qui est aussi un film, en fait, c'est le procès du système judiciaire américain, quoi, au moment où le film est fait. C'est un film passionnant. Alors, je vous rappelle l'histoire. Hein. Paul Bigler, avocat plus ou moins retiré des affaires, consacre l'essentiel de son temps à la pêche et il se voit proposer la défense du lieutenant Mannion, coupable de l'assassinat de l'homme qui venait de violer sa femme. L'épouse du lieutenant se révèle être un personnage trouble et le lieutenant Mannion lui-même ne se montre pas dans un premier temps très coopératif. Mais Bigler, après quelques hésitations et sur les conseils pressants de son vieux complice, accepte. Bigler prépare sa stratégie de défense et le procès débute.
Hey. There is a new movie coming to this town. All those involved in this film will now be sworn in.
Raise your right hand. Do you solemnly swear that you have done your job in this picture to the best of your abilities? James Stewart?
I do.
Lee Remick?
I do.
Ben Gazzara?
I do.
Arthur O'Connell?
I do.
Eve Arden?
I do.
Catherine Grant?
I do.
And you, Duke Ellington?
I do.
And you, Joseph N. Welsh, who temporarily deserted the real law to play Judge Weaver?
I do.
This is highly irregular.
Irregular, John? Didn't you approve the screenplay by Wendell Mays?
Yes.
Didn't you, when I came up here, suggest that we shoot here in this courtroom? And didn't you yourself suggest every single location for the film, including your own house that you were kind enough to lend us?
Well, that's true.
And didn't you, being not only a bestseller novelist, but also a justice of the Supreme Court of Michigan, didn't you supervise every single legal detail in the film?
Yes, Otto, but you don't have a jury.
Oh, that, you see, John, our jury is not just 12 men and women in a box. Our judge and jury sits out there, millions and millions of people in the theaters.
Un film qui est assez pervers dans ce qu'il montre, parce que finalement, le personnage campé par James Stewart, qui est un personnage des plus sympathiques, hein, un avocat un peu loser, plutôt désinvolte, hein, qui n'hésite pas à faire des blagues pendant le procès, se voit défendre en fait un assassin. Hein, donc finalement, nous, les spectateurs, on est un peu pris en otage quelque part, parce que ce personnage sympathique, on est pour lui, on est pour qu'il gagne le procès, alors qu'il défend un assassin. Il l'a tué, on suppose, de sang-froid, une heure après que sa femme a été violée, le violeur de sa femme. Donc on se dit qu'il y a peu de circonstances atténuantes, mais finalement, pendant 2h30, on est pour ce personnage, on a envie qu'il gagne le procès, et les personnages, le procureur, les avocats de la défense, finalement, il ne nous apparaît pas forcément sympathique, voire manipulateur, et des plus cyniques. Contrairement à ce personnage campé par James Stewart, qui lui est plutôt jovial, n'hésite pas à faire des blagues, et qui a une équipe aussi plutôt de losers. Hein, sa secrétaire, elle n'est pas payée, et il reprend sous son aile son vieux complice, qui est plutôt un vieil homme alcoolique, qui prend comme assistant. Donc c'est un film qui est quand même quelque part un peu pervers, et dont la fin, que je ne vais pas dévoiler, s'avère des plus perverses aussi. Bon, moi j'adore les films de procès, hein, j'adore ça. Et là, il y a quand même 1h30 de procès. Moi, les films de procès américains, ça me happe, j'adore ça. Je suis toujours pris par le truc. J'aime bien les joutes verbales, les objections, votre honneur, j'adore ça. Et Otto Preminger, là, pendant le film dure 2h30, dans sa mise en scène, il arrive à justement à faire quelque chose de très dynamique, de ne pas faire quelque chose d'académique. Sa mise en scène, elle est dynamique, elle est virevoltante, c'est découpé. Et c'est, quand je dis c'est découpé, c'est pas découpé au hasard. Je veux dire, quand il fait durer les plans quand il faut faire durer les plans pour montrer qu'il y a de la tension, pour montrer qu'il se passe quelque chose. C'est un grand film d'Otto Preminger, mais existe-t-il des films mineurs d'Otto Preminger ?
Effectivement, moi j'aime beaucoup. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, l'acteur qui fait le juge, Joseph Welch, était véritablement avocat à la cour de Boston. Enfin, l'été, je suppose, parce que bon, là, le film date un peu. Et l'affrontement verbal entre James Stewart et George C. Scott, c'est quelque chose quand même. Hein.
Oui, et puis ce personnage du juge est assez drôle parce qu'il en a un peu rien à foutre en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça se termine vite. Il regarde sa montre régulièrement, il la remonte régulièrement. Puis là où il prend un peu vie, là où il s'intéresse un peu à ce qui se passe, c'est quand dans son bureau, James Stewart lui montre des appâts à grenouilles ou des appâts à truites. Et là, c'est là où il reprend un peu vie, où il s'intéresse un peu à ce qui se passe autour de lui. Mais durant le procès, finalement, il n'est pas tant dedans que ça, sauf quand on lui parle de slip.
Écoutez Culture Prohibée spéciale pour la. Moi je reste aux États-Unis, mon petit Thomas, je reste aux États-Unis, j'y suis bien. Voilà. Bon, c'est vrai que pour les polars, les films noirs, bah, ils sont pas mauvais, hein, les Américains, il faut leur reconnaître cette qualité. Hein, les États-Unis maîtrisent bien le sujet. Et je vais vous parler d'un film, alors l'un des 200 millions de films qui a inspiré Reservoir Dogs à Quentin Tarantino, hein, voilà. Bon, maintenant, il fait des listes de films à voir avant de regarder ses films. Hein. Alors, je remercie Christophe Chavdia qui m'a envoyé ça, c'est-à-dire, effectivement, Tarantino, maintenant, fait des listes, et il a fait une liste des 10 films à voir avant de voir Once Upon a Time in Hollywood. Comme ça, voilà, c'est-à-dire, voilà, vous voulez les clés de compréhension du film, vous regardez ça d'abord. Alors, pourquoi je cite Christophe Chavdia? Parce que c'est lui qui a fait le livret du film de Phil Carlson, dont on va parler, un film de 52, qui s'appelle Kansas City Confidential, ou Le Quatrième Homme en français, mais je vais l'appeler Kansas City Confidential, voilà, c'est plus simple, parce que bon, Le Quatrième Homme, on peut se mélanger, il y a d'autres films qui s'appellent Le Quatrième Homme, mais je pense en particulier à un superbe film complètement barré de Verhoeven. Voilà. Là, l'histoire est simple, il y a un cerveau qui recrute 3 complices pour exécuter le coup parfait, le braquage d'une banque, leur plan se déroule à merveille, évidemment, parce que c'est le livreur de fleurs qui passait par là qui se retrouve arrêté. Mais, le jour où le livreur est relâché, il décide de retrouver les types qui ont causé sa perte et de se venger. Alors voilà un film bien étrange. Alors Phil Carlson, on le connaît pour être un réalisateur de série B, assez bien troussé, pas un grand metteur en scène, mais un réalisateur très efficace. Et en particulier, moi, il y a un film que j'aime bien lui qui s'appelle Le Salaire de la Violence, un film de 58. Il y a d'autres films que tu aimes bien, toi, Thomas, de Carlson
Ah oui, moi, il y en a un que j'aime bien, et dont le titre, j'aime beaucoup, c'est La Trahison se paye cash, avec Jordan Baker.
Et ça, c'est ses deux derniers films, avec Jordan Baker, qui sont effectivement des films ultra violents et très noirs.
Oui, hein. Puis très, très, très efficaces, très bien troussés, très secs.
Des qualités qu'on retrouve, hein, d'ailleurs, dans Kansas City Confidential. Alors, il est souvent vendu comme un grand film de hold-up. C'est un film de hold-up pendant sa première partie. Après, le film devient autre chose. Alors, c'est ça qui est un peu déstabilisant dans le film. Il y a plusieurs films dans le film. Bon, voilà. Mais on s'y fait. Hein, bon. Moi, j'adore la première partie du film, en fait. J'aime un peu moins la suite, mais la première partie du film est super. On a ce cerveau-là qui est en train de bosser sur un plan, il observe les allées venues des agents de sécurité, tout ça, enfin voilà. Même celle du fleuriste qui est à côté, hein, il est malin. Hein. Et après, il recrute ses acolytes. Et là, c'est excellent, parce que alors, toutes les premières minutes, comme ça, quand le type prépare, même quand il recrute, tout est quasiment muet, il n'y a quasiment pas de dialogue. Tout est dans la mise en scène. C'est vraiment très bien troussé. Et je crois que le premier dialogue, c'est 6-7 minutes de film avant, quoi. Voilà, avant qu'il y ait un dialogue dans le film. On découvre comme ça les personnages qui vont en gros constituer le commando de braqueurs. Hein. On a par exemple Lee Van Cleef, qui est un séducteur arrogant,
On a Neville Brand, qui est un peu le groupe bourrin de la bande, quoi, voilà, le Joe Don Baker de ce film. Le cerveau revêt un masque, et il a une idée de génie, en fait. En fait, personne ne connaît personne dans ce groupe. C'est un peu l'idée du monsieur Pink, du monsieur, voilà, du Tarantino. Personne ne sait qui est qui. Et ça, clairement, Tarantino l'a repris dans ce film-là, hein, la manière de constituer le commando et tout ça. Et donc, personne ne connaît l'identité des complices. Et leur signe de ralliement, c'est quatre rois issus d'un même jeu de cartes. Voilà, c'est comme ça qu'ils se retrouvent. Et c'est leur moyen de reconnaissance pour pouvoir partager le butin. Voilà, alors évidemment, là où c'est excellent, c'est que toute la partie hold-up est extraordinaire, puisque... bon, ça vaut pas Jules Dassin, hein, mais les séquences à la Jules Dassin, mais c'est quand même pas mal. Et le hold-up réussit, en fait. Voilà, le hold-up est totalement réussi. Et puis après, le film bascule dans autre chose, puisqu'on a ce fleuriste qui se fait accuser, qui est, comment dire, c'est John Payne qui joue le rôle, et c'est pas forcément... Bon. C'est pas un acteur extraordinaire, voilà. J'aurais préféré un acteur un peu plus, voilà, un peu plus de personnalité. Et il se retrouve donc pris au piège. C'est l'innocent accusé à tort. Hein. Sauf que là, on n'est pas chez Hitchcock. Hein. Il va en pâtir. Et il va ensuite vouloir donc se venger. Et le film, si je préfère sa première partie à sa deuxième partie, reste quand même un film vraiment bien mis en scène. On est dans du Phil Carlson, quoi. Voilà, de la bonne série B, bien carré, bien troussé, très gros travail sur les valeurs de plan, très bon découpage. On s'ennuie pas, en fait. On s'ennuie pas. C'est-à-dire que quand le film est fini, on dit ah bah hop, c'est déjà l'heure, c'est terminé. C'était vraiment bien. Je regarderai bien une deuxième fois, en fin de compte, parce que j'ai l'impression qu'il s'est écoulé un quart d'heure, quoi. Voilà. C'est du bon boulot et c'est peut-être pas un grand classique. Mais c'est le haut du panier en matière de série B. Écoutez Culture Prohibée. On va rester aux États-Unis avec un maître du film noir, un maître du film noir d'ailleurs rarement cité, souvent oublié, mais qui est pourtant bel et bien un maître du film noir, puisque c'est Robert Siodmak. Et en 1944, il a signé un film là, qui vient de sortir chez ESC Audition, qui s'appelle Le Suspect.
Le Suspect qu'il signe en 1944. Alors, effectivement, c'est un film américain, mais c'est un film américain qui se passe à Londres. L'histoire se passe à Londres. Et on suit... c'est un film particulièrement retors aussi celui-ci, parce que l'assassin, c'est un mec sympa. C'est Charles Laughton qui joue le gérant d'un commerce, Philippe Marshall, et qui est sympa. C'est par exemple le petit commis qui emprunte un ou deux shillings pour s'acheter des bonbons. Il lui fait gentiment la morale, il lui fait un peu peur en disant « je vais appeler la police », mais finalement le petit commis lui dit « bon, tu rembourses ça samedi », puis on ne dit plus rien. Enfin bref, c'est un mec sympa. Mais le problème, c'est que Philippe Marshall, il est marié à une mégère, une véritable mégère, à tel point que leur fils finit par quitter la maison, parce que suite à une de ses nombreuses crise où elle a brûlé le manuscrit écrit par son fils, lui finit par quitter la maison, elle est vivre chez un ami à lui. Et donc Philippe Marshall reste avec sa mégère. Entre-temps, il rencontre une jeune femme fort sympathique avec qui il passe du temps. Ils vont au restaurant, ils discutent, ils passent du bon temps ensemble. Et la mégère finit par découvrir qu'il a plus ou moins une liaison avec cette femme-là. Et elle le menace de tout dévoiler à son patron, de briser sa réputation dans le quartier, auprès de son patron, enfin bref. Et là, Philippe Marshall n'en peut plus, et bon, évidemment, il la tue. En même temps, on ne va pas lui en tenir rigueur, parce qu'elle était vraiment méchante, cette femme-là. Mais bon...
Eh bien, bravo, monsieur justifie les féminicides. Eh bien, c'est du beau.
Ouais, je suis un salaud, je sais. Et donc, Philippe Marshall finit par se marier avec cette jeune femme qu'il trouvait bien sympathique. Et finalement, se retrouve enfin heureux. Son fils revient à la maison, rencontre une jeune femme. Tout le monde est heureux. Jusqu'au jour, un inspecteur de police, Georges Colombo, se pointe et déclare faire une enquête de routine. Mais il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que Philippe Marshall a bien tué sa femme. Et le film tourne autour un peu de ça. Comment Philippe Marshall va se faire coincer ou pas par cet inspecteur de police qui est quand même un petit peu trop malin pour lui. C'est un film, moi je trouve que c'est un grand film de Robert Siodmak. Hein. Robert Siodmak déjà avait déjà fait ses preuves avec Demain la nuit, hein, d'après William Irish, et puis Les Tueurs avec Burt Lancaster.
Moi j'adore Demain la nuit, hein. Je le trouve...
Moi je trouve ça formidable.
Ouais, moi c'est pareil.
Je trouve qu'il y a une ambiance fantastique dedans, c'est un film formidable. Et on retrouve quelque chose comme ça dans Le Suspect, dans un Londres brumeux, hein. on est encore un peu dans l'expressionnisme allemand. Il y a une scène qui est formidable, c'est l'inspecteur de police qui rejoue le meurtre. Il l'a pas vu, hein, mais il fait comme si il rejouait le meurtre, alors que le meurtre on l'a pas vu, il a été ellipsé. Et cette scène, elle est formidable, elle est quasiment en plan séquence dans la pénombre. Robert Siodmak montre qu'il est un grand metteur en scène, et surtout cette façon qu'il a de mener le spectateur par le bout du nez, parce que ce personnage, il est vraiment sympathique, mais quand même il tue aussi une deuxième fois, hein, il commence à aller dans un engrenage qui fait qu'il finit par tuer une deuxième fois. Ce personnage est vraiment sympathique. On est pour lui. On a envie qu'il s'en sorte. Mais en même temps, bon, il a commis deux assassinats, quoi, parce que ce sont des assassinats et non des meurtres. Hein. Il y a une différence notable. Et pour moi, c'est... D'ailleurs, Robert Siodmak disait qu'il avait signé avec Le Suspect son meilleur film. Et peut-être qu'effectivement, c'est son meilleur film. Peut-être avec Demain la nuit aussi. Bravo, c'est d'éditer ce film. Malheureusement, la copie n'est pas en si bon état que ça, ce qui explique qu'il ne sort qu'en DVD seulement et pas en Blu-ray. Voilà. Mais c'est un film formidable, avec un Charlton formidable aussi. Pour moi, c'est un des musts des sorties DVD Blu-ray de cet été. Il est sorti cet été.
I can show you where.
vous écoutez Culture Prohibée spécial Polar. Je vais rester dans l'ambiance du film noir, mais pour vous parler d'une série télé assez récente, qui est une série télé des années 90, produite par Sidney Pollack. Ça s'appelle Fallen Angels. Et Fallen Angels, c'est sorti chez Elephant Film. Et c'est carrément une série hommage au film noir assez exceptionnelle. Alors évidemment, j'entends déjà les ronchons qui me disent « Mais non, les années 90, c'est mon gars, c'est au XXe siècle !» Mais oui, mais je sais les amis. Sauf que là, je parle de film noir, c'est du pur film noir dans l'état d'esprit, dans l'esthétique des années 40-50. Voilà, on est là-dedans. Voilà, on est dans cette esthétique-là. C'est une série où Sidney Pollack, enfin les producteurs font pas semblant. Hein. C'est une anthologie, hein, donc tournée entre 93 et 95. Et on a vraiment la volonté de ressusciter le film noir vraiment dans l'état d'esprit années 40, années 50. Et on fait pas les choses à moitié. C'est-à-dire que tous les épisodes sont adaptés de pointure. Raymond Chandler, James Ellroy, Jim Thompson, Cornell Woolrich. Parfois même, ils travaillent même à leur propre adaptation. Ellroy travaille à leur propre adaptation, je crois. Je crois qu'il y a Westlake aussi qui signe un scénario. Enfin voilà, c'est réalisé par que du lourd. Hein, bon voilà, enfin quasiment. Vous avez Peter Bogdanovich, vous avez Steven Soderbergh, vous avez Alfonso Cuarón. Enfin, des metteurs en scène, quoi. Hein, c'est, voilà. Et il y a aussi des acteurs du tonnerre, puisque vous allez retrouver Gary Oldman, James Woods, Isabella Rossellini, Tom Cruise aussi qui fait sa seule réalisation aussi pour cette série, qui réalise un épisode. Et la série est simple. Tous les grands de l'époque y sont aussi, il y a John Dahl, tout ça, enfin bon, qui était un petit maître du film noir dans les années 90, qui a un peu disparu de la circulation. Ça commence, il y a une femme fatale qui introduit le film, enfin qui introduit le petit épisode. Alors moi j'aime bien aussi parce que c'est en 4 tiers. Donc, à l'époque on tournait encore en 4 tiers évidemment, puisque on faisait pas du scope pour la télé comme ça peut se faire maintenant, quoi. On faisait du 4 tiers. Et donc du coup c'est intéressant de voir aussi comment des réalisateurs talentueux comme Bogdanovich utilisent le 4 tiers. Je pense que c'était un trip pour un mec comme Bogdanovich qui rêve du cinéma d'un autre temps, hein, qui l'a mis en scène dans Nickelodeon, par exemple, des choses comme ça. C'est vachement bien. On passe un bon moment. Il n'y a aucun épisode vraiment mauvais. Il y en a des plus fadasses que d'autres, évidemment. Mais il y a quand même des choses un peu particulières. Moi, l'épisode de Tom Cruise est vachement intéressant. Il ne joue pas dedans. Il réalise. Mais il construit toute la dialectique Tom Cruise en fait dedans, c'est vachement intéressant ça. C'est-à-dire que on voit sa manière de considérer le héros dont il échappe, voilà, à toutes les situations les plus dangereuses, tout ça. Enfin, c'est le Tom Cruise à venir des Jack Reacher, des voilà. Même si lui joue pas dedans, hein, mais c'est vachement intéressant de voir ça. Il y a aussi un épisode qui n'est pas forcément ce qu'il a fait de mieux, Alfonso Cuarón, mais qui est très intéressant puisque c'est un épisode qui est une héroïne. C'est-à-dire que là, on suit toujours des mecs dans quasiment tous les épisodes, avec des femmes fatales derrière, évidemment, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment une femme, l'héroïne de l'épisode. C'est Laura Dern qui l'interprète. Et elle est en fait amoureuse d'un... Ce n'est pas vraiment réciproque, quoi. Voilà. Cet amour n'est pas vraiment réciproque. Et
Et le type est assez étrange, c'est Alan Rickman, qui peut être très étrange quand il veut, hein, qui peut être très ambigu. Et c'est un épisode avec quelques beaux plans, on sent que Cuaron a des velléités de mise en scène quand même. Hein. Et puis, il y a un épisode que j'aime bien, c'est celui de Soderbergh, hein, parce que là, c'est Soderbergh, hein, voilà, il y a toujours un petit truc chez Soderbergh, hein, toujours intéressant. C'est pas le réalisateur que j'aime le plus, j'ai jamais vu de chef-d'œuvre de Soderbergh, par contre, il y a toujours un truc dans ses films qui m'intéresse. Dans ce qu'il fait, il y a toujours un moment intéressant. Que l'anglais c'est quand même vachement bien, mais voilà. Et là on a un Brendan Fraser qui trouve là un des rôles de sa vie, hein, qui est une sorte de tueur quasi mutique, voilà, qui est impitoyable, mais qui en fait nourrit une passion homosexuelle pour un autre homme, évidemment. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait jamais aborder. On n'est pas étonné que Soderbergh, quand on connaît sa filmo ensuite, traite de ce sujet-là. Mais dans le film noir, c'est particulier. Voilà, ça détonne. Et puis, il y a aussi, moi, deux épisodes que j'aime beaucoup. Il y a Le Vent Rouge, adapté de Chandler, où, justement, Philip Marlowe est noir, puisque c'est Danny Glover. Et Danny Glover est un très bon Philip Marlowe. Et Aniska Holland, la réalisatrice, s'amuse beaucoup à jouer avec les couleurs. C'est assez beau. Par moments, on dirait presque des décors peints, façon, à la manière des films japonais d'une certaine époque. C'est assez chouette. Et puis, bon, une fois de plus, on casse un tabou états-unien propre aux États-Unis, c'est l'histoire d'amour interracial. Moi, l'un de mes petits préférés, c'est pas forcément... Je trouve que c'est un de mes préférés parce que je suis tombé un peu amoureux de l'actrice, hein, voilà, qui fait une femme fatale, une femme fatale noire, qui est assez sublime et qui campe son rôle en plus avec une certaine désinvolture, tout en étant très sexy. Enfin, c'est très intéressant. Elle s'appelle Cinda Williams. Et cet épisode, c'est Casse-cou, Fearless, en VO. Et c'est réalisé par Jim McBride. Et... c'est deux hommes qui s'apprécient parce qu'un jour, ils sont amenés à sauver mutuellement la vie, voilà. Ils ne sont pas spécialement potes au départ. Puis ce fait-là va faire que ils vont rester liés, voilà, comme ça. Bah, effectivement, quand quelqu'un vous sauve la vie, c'est un peu normal de rester lié à lui. Hein, même si au départ, vous ne seriez jamais tombé pote avec ce type, puisque là, en l'occurrence, c'est un type plutôt malin, cultivé, et l'autre, c'est plutôt une grosse brute, pas très malin, justement, qui se fait un peu avoir. Et là, le type finit par débarquer. Il finit par débarquer et dans une ville, et dans cette ville, il est accueilli par Cinda Williams, qui le drague éhontément, avec qui il finit... ça finit par être un peu chaud. Et je peux rien de vous faire un dessin. Et là, débarque son pote et il découvre que c'est la femme de son pote. Et ça démarre comme ça, en fait. Voilà. Et l'histoire démarre comme ça. Et évidemment, il y a plein d'autres choses derrière, puisqu'elle est chanteuse dans un étrange cabaret, pour des types louches, tout ça. Enfin bon, voilà. Donc, je vous conseille cet épisode. Je vous conseille, de toute façon, cette série, Fallen Angels, qui est un très bel hommage au film noir et qui se regarde, qui se mange sans déplaisir.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, PodCloud, Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.